sur Blueprint.
Salut à tous, c'est Lou. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de La Cartouche, votre podcast dédié aux jeux vidéo. On a pris la machine à voyager dans le temps avec Yann. Nous voici de retour. On a fait un bon stellaire. Mon cher Yann, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, comme quelqu'un qui n'a pas pu faire la cartouche pendant plus d'un an.
Ah et oui, qui ça fait.
S'est fait voler son micro. Non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Salut tout le monde. La vraie du retard. Juste pour vous expliquer un petit truc entre vous et moi, si vous n'écoutez que le podcast, que vous ne me suivez pas sur Twitter, et honnêtement, tant mieux, parce que Twitter, oh là là, Twitter, les réseaux sociaux, oh là là. Sachez que je suis tombé malade et que ça a débouché sur une situation de handicap dans laquelle je suis toujours. Et du coup, je vous parle depuis mon plumard et je suis couché. Donc voilà. c'est pas exactement le tournant que j'avais imaginé que prendrait ma vie. Et c'est pas les circonstances dans lesquelles j'aurais aimé continuer le podcast. Mais à ce stade, c'est devenu plus stable pour le faire. Donc coucou, nous revoilou, comme dirait Paul Naref.
On t'entend, on te comprend, c'est le principal. Alors si vous êtes un nouvel auditeur du coup de la cartouche, déjà bienvenue à vous dans cet épisode numéro 103 déjà. 103, te rends-tu compte mon cher Yann ? Le 102 était un petit peu loin, mais justement.
Il y a eu plusieurs arcs à la cartouche, il faut le dire. Hein. Il y a eu la formule originale qui a un peu peaufiné au fur et à mesure des premiers épisodes, mais qui s'est stabilisée assez vite. Ensuite, on a adapté un petit peu les choses, on a lancé 2-3 spin-offs, on a tout refusionné. On a eu une période ensuite où juste le podcast était tel quel pour plusieurs dizaines d'épisodes. Ensuite, on s'est cherché pendant un an. Toutes les deux semaines, je proposais une nouvelle version à Lou. Et puis là, tout d'un coup, patatras, on a eu la grande période avec rien. Puis maintenant, on a la nouvelle ère que j'espère sera remémorée dans les livres d'histoire du podcast jeux vidéo comme étant l'ère de merde.
Je sais pas si c'est plus comme One Piece ou comme Mylène Farmer, toute cette histoire. Enfin, c'est très long, c'est plein de choses différentes, c'est incroyable, c'est des rebondissements, c'est fou quoi, c'est la vie aussi la cartouche. Donc n'hésitez pas hein, si vous venez d'arriver, donc découvrir les anciens épisodes qui sont toujours valables bien évidemment sur certains dossiers. Et puis si vous êtes un vieux de la vieille, écoutez, re-bienvenue à vous, nous voici de retour pour vous jouer un mauvais tour bien évidemment. Cette vanne qui a plus de 20 ans ne vieillit jamais. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, mon cher Yann ? Des jeux qu'on a fait depuis la fois dernière, j'ai envie de dire.
Absolument. Alors, depuis la fois dernière, c'est peu de le dire, puisque, pour donc préciser, ça fait depuis juin de l'an dernier qu'on ne s'est pas parlé, peut-être même mai, je ne sais plus ce qu'on avait fait en vrai.
C'est 2021, pour resituer.
On vit dans un monde différent. Hein. La reine Elisabeth II est morte, Splatoon 3 est sorti, c'est logique, hein, après le 2 vient le 3. On a eu un nouveau Mario Football qui a été annoncé puis qui est sorti. On a un nom pour et une date pour Zelda Breath of the Wild. Non, merde, justement, Tears of the Kingdom. Exactement, et pas Tears. Hein. J'espère que vous avez bien appris les enfants. Ce sera sur le test à la fin de l'année. Donc non, clairement, révolution totale. Les PlayStation 5 sont toujours pas disponibles.
Attends.
Quelque chose a pu changer.
J'ai envie de dire, le gros mégatonne, parce que le truc vraiment que je n'attendais plus, que je n'espérais plus, et dont on va pouvoir parler en premier du coup, c'est Mario Kart 8 Deluxe, qui a eu un DLC, ou plutôt un Season Pass, on va dire, en 6 vagues de contenu, mais ça c'était complètement inattendu. Est-ce que tu l'attendais toi finalement, quand c'était annoncé il y a quelques mois ?
Je fais une petite parenthèse pour dire, on est vraiment un podcast de niveau réceptif pour dire que le mégatonne en un an...
Mais non, mais enfin, Megaton, dans le sens, on vient de mettre un DLC à un jeu sorti il y a 5 ans, qui est lui-même un portage d'un jeu qui est sorti il y a encore plus longtemps. Enfin, c'est ça
qui
est fou.
J'ai mis du DLC sur ton supplément, sur ton DLC, sur ton jeu original.
Exactement.
Bon, au fond, pourquoi pas. Est-ce que je m'y attendais ? Non. Tout comme le mode multijoueur de Super Mario Party, on s'y attend pas. Honnêtement, Mario Kart 8 Deluxe. Recevoir des circuits, on avait fait notre deuil. Puis à un moment, la Switch, elle est sortie il y a 5 ans. Quand même, plus que 5 ans maintenant. Le jeu, il est également sorti il y a 5 ans. Donc, honnêtement, à ce stade, c'était assez imprévisible. Et en vrai, le calcul est intéressant pour Nintendo, puisqu'il s'agit de retravailler des circuits qui avaient déjà été plus ou moins recréés pour Mario Kart Tour, jeu sur mobile. Donc c'est une synergie en termes industriels hyper intéressante de leur côté. Évidemment aussi, tes gamers, ça a un peu crié au scandale. Tu t'en souviens ?
Bien sûr, bah évidemment, c'était du recyclage. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on te ressort effectivement sur le prix. Je vais revenir très très vite parce que quand même, ouais. Je trouve que 25 euros pour combien de circuits, je sais même plus compter. Ça fait quasiment 50 centimes le circuit en fait. Ça vaut le coup. Oui, il y a 48 circuits, voilà.
Ça vaut le coup. Et en même temps, tu sens quand même que c'est quelque chose qui a été sorti pour l'abonnement. Ça aussi d'ailleurs, on s'y attendait pas tellement. L'abonnement plus cher avec les jeux Nintendo 64, avec le DLC de Splatoon 2 offert, avec le DLC payant d'Animal Crossing, c'est Happy Home Time, je crois que ouais. C'est ça le titre. J'ai toujours pas pris, d'ailleurs, il me fait un petit peu envie, moi et mes mains un peu capricieuses de redécorer des maisons, c'est peut-être ça qu'il nous faut d'ailleurs, mais bon, autre sujet. En attendant, on a donc ce Mario Kart 8 Deluxe DLC en 6 vagues. Ouais, ça ressemble un petit peu à. Reste bien abonné pour avoir les différentes vagues. Tu sais, des gens chez Nintendo of Japan qui se creusent la tête en se disant qu'est-ce qu'on peut ajouter comme plus-value, lequel de nos jeux c'est le plus vendu et sur lequel on a une grosse base installée pour pousser l'abonnement. Mais oui, Mario Kart 8 Deluxe, enfin, ça ressemble un peu à ça.
Mais pour autant, moi j'attendais vraiment, enfin, je suis sûr que les vieux de la vieille de la cartouche, je suis sûr qu'ils le savent qu'à un moment j'ai forcément dû dire je veux du DLC pour Mario Kart 8, je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas.
À un moment
bon, peut-être 10 fois dans les premiers épisodes,
ça,
je pense.
Mario Odyssey. Mais sur les deux, je suis d'accord avec toi. C'est des jeux qui sont fantastiques, et particulièrement pour Mario Kart 8 Deluxe. Littéralement, c'est un jeu de course. Ajouter plus de courses, c'est bien. Certes, visuellement, on va commencer par le négatif, ou en tout cas le moyen. C'est bof sur certaines et acceptable pour d'autres. Je crois qu'on est majoritairement sur ce scale-là. En vrai, c'est quelque chose qui fonctionne mieux sur un écran portable que sur un écran de télévision, qui plus est d'ailleurs sur un écran 4K. Le jeu a beau bien se porter sur un écran 4K, ces circuits-là en eux-mêmes, je trouve, les couleurs sont fades, enfin elles sont hyper plates, les modèles 3D sont assez simplistes. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. Maintenant, en mouvement, c'est quand même mieux. Les tracés sont les tracés. Il y a eu des petits changements. Ici et là, des petites simplifications, Mario Kart Tour oblige. Mais il y a aussi eu de la créativité. Je pense notamment à Calimari Desert, la course de la Nintendo 64 Desert, qui a été complètement repensée, un peu à la manière des circuits en une fois de Mario Kart 7. En fait, certes, on fait tout le tour, techniquement, plusieurs fois, mais à chaque fois avec des embranchements différents. Et ça, c'est franchement malin. Surtout, on avait ce mythe d'aller farfouiller du côté de la ligne de chemin de fer à l'époque sur la 64 à la recherche peut-être d'un raccourci ou que sais-je d'autre. Que malin quand même.
C'est un des circuits les plus inventifs, comme le sont d'ailleurs les circuits tirés de ville de Mario Kart Tour, déjà parce qu'il reprend en fait, comme les circuits de ville, il reprend des transformations du circuit qui sont effectuées dans Mario Kart Tour, qui proposent effectivement plusieurs lectures d'un même circuit. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir changé les tracés au fur et à mesure de la course. Et ça rend d'ailleurs les circuits de ville plus intéressants. Jusque-là, on a Sydney, on a Paris, on a Tokyo. Je sais plus ce qu'on a encore.
Et c'est bizarre parce qu'en soi, on se dit des circuits comme ça, ça n'a pas énormément de personnalité. En vrai, et je trouve, pour avoir joué à Mario Kart Tour, que l'upgrade vers la Switch, vers Mario Kart 8 Deluxe, a permis d'ajouter pas mal de personnalité à ces circuits. Je pense notamment à New York. New York, mais s'épanouit, le tracé New York s'épanouit. Sur Switch, en voyant ce qui se passe un peu à gauche, à droite, forcément, on passe d'un écran vertical à un écran horizontal. Mon Dieu, que c'est plus intéressant, quoi.
Ça fait partie des meilleurs circuits pour moi de ces vagues de DLC. Et les purs rétro, pour moi, la plus grosse déception, malgré le tracé qui est très intéressant, ça reste le circuit Mario 3 de Super NES, qui reprend presque graphiquement la Wii, quoi. Et c'est marrant parce que je jouais à Mario Kart Wii juste avant qu'on enregistre ce podcast. J'étais en train de me dire, j'ai fait l'autodrome Mario, donc le circuit de la 64. Ouais. Je l'ai refait en version rétro du coup dans Mario Kart Wii. Et j'étais en train de me dire que les textures de Mario Kart Wii, de l'autodrome Mario, étaient beaucoup plus belles que les textures en fait qu'on a dans la plupart des circuits de Mario Kart 8 Deluxe tirés du DLC. Mmh. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Il y a un gros souci de texture. T'as l'impression d'un truc extrêmement lisse et sans grain, ouais, sans rien, sans volume. Et c'est vraiment ce qui pêche parce que si tu regardes bien en termes de modélisation, de décor, tout ça, bah, c'est plutôt soigné malgré tout. Donc ça, c'est vraiment dommage.
Et puis c'est vraiment pas un copier-coller, je veux dire, au-delà du fait qu'il s'agit de moteurs complètement différents et que ça nécessite de retravailler l'ensemble, il y a des ajustements qui ont été faits ici et là, je pense notamment au circuit supermarché Coco. De la version Wii à la version mobile, c'est différent, et de la version mobile à la version Switch, c'est encore différent.
Oui, ils avaient trop simplifié la fin d'ailleurs en immobilisant les voitures, et je trouve que c'était assez scandaleux. Bon, c'est toujours pas la panacée maintenant, ils les ont fait rebouger grâce à la mise à jour de la deuxième vague, mais globalement c'est vrai que les tracés sont beaucoup trop simples. Je vais prendre un autre exemple très facile à comprendre. Dans la corniche champignon à l'origine sur DS, les véhicules, pardon, ils roulaient chacun, ben, classiquement quoi, une file de gauche et une file de droite, enfin c'était tous les deux dans un sens différent. Là désormais c'est tous les deux dans le même sens, et c'est en plus le sens de la course, donc ils sont pas à contresens, donc c'est beaucoup plus facile d'éviter les véhicules qui sont pas forcément très nombreux, et en plus à la fin près du vide, parce que c'est une corniche évidemment, on a rajouté plein de barrières pour éviter de tomber de la falaise. Bah, désolé, mais c'est pas le principe en fait de ce circuit, donc ça c'est vraiment
ça clash avec le reste du design du jeu. Faut, là aussi être honnête, il y a une différence notable entre les circuits du DLC et les circuits originaux.
Oui, mais en même temps, à côté de ça, ils te pondent la Cité Sorbet, qui est un circuit entre guillemets inédit, bah, qui a été plus conçu pour Mario Kart Tour, mais qu'ils ont sorti avant sur Mario Kart 8, hein, qu'on va voir, c'est clairement ça, mais qui pour le coup est une course où il n'y a littéralement aucune barrière sur tout le long et avec des circuits qui sont plutôt, avec des virages,
oui,
pardon, qui sont plutôt serrés.
Ceci dit, avec une gestion du vide extrêmement généreuse sur ce circuit-là, et avec des angles de caméra d'ailleurs un petit peu casse-gueule par endroit. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il se fasse un petit peu corriger à la prochaine mise à jour, parce que... Mais ça, c'est intéressant parce qu'on touche à un autre point. Les circuits entre guillemets inédits, donc on avait le machin ninja là, à la première vague.
Le Dojo Ninja, ouais.
Dojo Ninja, et puis ce machin sorbet, car je n'ai pas les noms dans les deux cas.
Cité sorbet.
Pour la deuxième vague. Ça fait partie des moins bons dans les deux cas, en fait. Ils sont thématiquement intéressants. Le tracé serait intéressant également s'il n'y avait pas un problème. Un moment où tu roules en 150 dessus, tu te casses la gueule.
Le dojo avec tous ses embranchements, je trouve complètement ouf. Sa musique, son ambiance, je trouve le tracé très intéressant.
Et là, dans Mario Kart DS, c'est un circuit qui partage beaucoup de philosophie de design, très, très vertical, très embranchement verticaux, un peu à la façon stage de Sonic. Mais adapté à la sauce Mario Kart, c'est quelque chose qui irait bien typiquement voilà dans un Mario Kart DS ou dans un des jeux subséquents. Par contre, je trouve que c'est pas adapté à la conduite. Voilà, c'est dommage.
Ouais, avec ses angles droits par moment un petit peu compliqué. Ah, je le trouve intéressant quand même. C'est quand même une belle surprise. Là, sur la prochaine vague, on va en parler rapidement. Il y a deux circuits qui ont déjà été révélés. Une reprise du magnifique Jardin Peach avec un travail graphique pour le coup qui a l'air un peu plus conséquent malgré comme toujours les textures, notamment l'herbe un peu pourrie, mais on rajoute un belvédère, on rajoute une Peach taillée dans un magnifique buisson du coup, des chomps qui ont l'air un peu plus gros, mais j'ai vu aussi des simplifications d'ailleurs encore une fois dans le tracé. Le premier virage autour du parterre de fleurs, le parterre de fleurs est quasi inexistant alors qu'avant il faisait tout le centre et un quart du circuit, si bien que tu devais le prendre vraiment sur l'extérieur. Ça c'est un petit peu dommage. Et puis à la fin, le tracé sinueux où on croise des taupes, j'ai l'impression que le tracé sinueux a disparu et les taupes se baladent plus en mode la plaine Donut 3 qu'on a par exemple dans Mario Kart 8. Bon, on verra, on jugera sur pièce, mais en tout cas graphiquement il y a une vraie amélioration au niveau du travail des arbustes. L'autre point, c'est le Mont Festif, en fait, qui a été révélé. C'était assez attendu, puisque c'est une vague qui va sortir près des fêtes de fin d'année. Donc, c'est normal d'avoir le Mont Festif qui se déroule dans un village de Noël. Donc. Et on a remarqué, du coup, une nouveauté en termes de gameplay, enfin, plutôt un retour en termes de gameplay. Ce sont les bordures de virages pour faire des figures en haut.
Les half-pipe.
Les half-pipe, ouais, une sorte de half-pipe. Alors là, pas vraiment des half-pipe parce que c'est que sur une bordure de virage.
Les quarter-pipe.
mais du coup, voilà, elles sont de retour. Elles étaient là dans Mario Kart Wii. Et du coup, de retour dans le 8. Et ça permettrait peut-être de revoir des vrais half-pipe comme dans les Alpes Donkey Kong de Mario Kart Wii. Peut-être le retour de ce circuit. En tout cas, ces deux circuits avaient été annoncés par les leaks du datamine de Mario Kart 8. Donc, jusque-là, normalement, en théorie, je ne vais pas vous spoiler, mais si vous fouillez, vous allez découvrir les 8 prochains circuits. Ils sont déjà connus. Il y a juste un doute sur un circuit, parce qu'il utilise la même piste musicale. En fait, ce sont les pistes musicales qui ont fuité. Donc, du coup, on peut savoir, grâce à la musique, ce que c'est comme circuit. Mais du coup, ça m'emballe vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai encore plus hâte de voir la suite. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse carrément tout. Les Mario Kart en DLC, pourquoi pas, ce serait absolument génial. Et d'ailleurs, j'aimerais d'autant mieux que je me suis refait absolument tous les Mario Kart, justement, là, grâce à ce DLC. Et c'est vrai que tu te dis quand même, la série a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué pour devenir de plus en plus accessible et quand même beaucoup plus sympa et simple à jouer. Je joue beaucoup à Mario Kart Wii, qui est un de mes épisodes préférés, qui était mon épisode préféré jusqu'à la sortie du 8, mais il est tellement frustrant parce que tu t'en prends mais tellement plein la gueule en continu par l'ordinateur. Là, j'ai fait une course sur le château de Bowser, je te jure, j'ai compté, je me suis pris 7 carapaces bleues. Et je n'ai compté que les carapaces bleues. C'était mais caricatural, quoi. C'était terrible. T'ajoutes à ça les éclairs, les carapaces rouges, les carapaces vertes. Par moment, Mario Kart Wii, c'est vraiment la foire au n'importe
L'item
quoi.
Avec le nuage.
Le nuage. Mais en même temps, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne l'ait pas mis parce que c'était bien d'avoir un petit malus, par moment, enfin un bonus malus, c'était assez rigolo.
C'est intéressant, mais c'est juste que ça se stack avec le reste.
C'est ça. Et puis, t'avais le méga champignon aussi que je trouvais cool qu'ils ont supprimé, malheureusement.
C'est bon, une des rares fois où le concept du méga champignon est adapté à une série de Mario, d'ailleurs. Ouais.
Qui est plutôt de bonne manière en plus, je trouve ça assez, assez cool, hein, donc c'est dommage.
Sonic Roboblast de cartes, voilà, j'y suis arrivé, qui est le clone de Mario Kart, mais fait par des fans de Sonic, sur le moteur de Doom, a cet item-là. Alors, c'est un item différent, hein, mais c'est fonctionnellement la même chose, c'est-à-dire que tu deviens un peu plus gros, un peu plus grand, et tu écrases tout sur ton passage. Et en vrai, ouais, ça marche. Vivement qu'ils reviennent dans genre un Nintendo Kart.
Et c'est marrant parce qu'en les refaisant tous, j'ai vu à quel point l'épisode DS et l'épisode Wii sortaient vraiment du lot en termes de fun, en termes d'inventivité, en termes de plaisir de conduite. Là où par exemple un épisode comme le 7, je le trouve ennuyeux en fait.
Le 7, ça sonne un peu genre contractuellement obligé.
Ouais, tu sens qu'il manque quelque chose, enfin tu sens qu'ils ont oublié le fun.
Et on
les circuits intéressants.
Reine Bay de Mario Galaxy.
Ouais. Il est vraiment, vraiment particulier comme épisode. Je trouve qu'il manque de peps, en fait. T'as des bons circuits, hein. Je trouve que la route arc-en-ciel de Mario Kart 7 est l'une des meilleures, clairement. Et d'ailleurs, j'espère et je pense qu'elle fera partie des circuits qui seront sélectionnés pour faire le trajet jusqu'à Mario Kart 8 Deluxe. Mais, et elle bénéficiera, je pense, de ce passage, parce qu'il est beaucoup plus intéressant, Mario Kart 8, que Mario Kart 7. Mais vraiment, tu sens que le 7 est un petit peu en retrait par rapport au DS et au Wii. Qui pour moi sont clairement les deux meilleurs épisodes de la saga.
Double dash à ses personnalités, 64 qui bénéficie du fait d'être le premier en entre guillemets 3D.
Il était péchu en 64, hein, il était assez péchu.
Ah, ah,
double ah. Dash, il avait un gameplay particulier quand même dans la gestion des virages, tout ça, c'était glissé quoi.
C'était le dash.
Ouais.
Excellent.
Ouais, c'est assez intéressant de tous les refaire à la suite, de voir à quel point la série a changé malgré tout, et à quel point, je trouve, plus j'ai fait les anciens, plus je me dis que Mario Kart 8 arrive quand même à une quintessence en termes de gameplay que je trouve très très agréable. C'est juste dommage qu'ils aient pas mis plus d'exigences au niveau des tracés, notamment dans le DLC.
Je suis d'accord, avec un petit astérisque quand même. Je suis le premier à vendre et survendre Mario Kart 8, et particulièrement Mario Kart 8 Deluxe comme étant le summum de la série. Ceci étant dit, de 8 à 8 Deluxe, ils ont pas mal changé l'équilibre des objets avec le deuxième slot à objets. Et là, avec l'arrivée des DLC, ils ont poussé une mise à jour du jeu qui est effective pour tout le jeu et qui rend, en gros, qui rafraîchit les objets sur la map encore plus vite. Ça fait pas une énorme différence, mais tu sens quand même qu'on se pouille encore plus. Et D'accord, c'est Mario Kart, d'accord, je ne vais pas faire mon touriste de Smash Bros, destination finale, aucun objet, etc. Et je peux désactiver les objets si je veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quand même l'impression que plus on avance dans le temps, plus Nintendo regrette la décision d'avoir concentré une bonne partie du gameplay de Mario Kart 8 original sur la conduite plutôt que sur les objets. Et tu les sens genre, faire des concessions année après année sur ce jeu. Après sa nouvelle sortie, après la mise à jour, etc. Jusqu'au point où c'est plus vraiment la même chose. Je continue de trouver que ce jeu-là est au-dessus, mais peut-être plus autant en termes de pur gameplay qu'à l'époque où il était sorti, je crois, genre en 2014.
C'est ça, 2014.
Voilà.
Tout à fait. Bah écoute, je te propose de passer à la suite, encore une histoire qu'on fasse pas non plus un podcast entièrement Nintendo, après on va encore nous le reprocher. Je vais te donner la parole du coup sur un des jeux que tu as pu faire durant notre voyage dans la machine à voyager dans le temps. C'est Stanley Parable Ultra Deluxe.
Mais oui, Stanley Parable Ultra Deluxe. Alors, comment parler d'un jeu qui a règle d'internet sur ce jeu-là, comme sur un film Everything All At Once, quelque chose, là aussi il faut pas non plus en parler. Il ne faut pas en parler trop parce que sinon on gâche la surprise. C'est généralement comme ça qu'on traite médiatiquement, quand c'est sorti il n'y a pas trop de temps, un jeu ou une œuvre culturelle de la sorte. Donc un peu délicat de parler de Stanley Parable Ultra Deluxe. Toutefois, déjà pour les personnes qui avaient joué au Stanley Parable original, qu'il s'agisse du mode sorti adossé à Half-Life 2, voilà, où il fallait l'installer manuellement, ou alors du jeu indépendant, dans tous les sens du terme, qui était sorti sur Steam en 2013, si je ne fais pas, d'erreur, sachez que Ultra Deluxe, c'est le jeu original pour nouvelles plateformes, donc console et également PC, mais c'est également probablement la même en plus en termes de quantité de contenu derrière. Et encore une fois, de parler d'une œuvre comme celle-ci qui essaye justement d'être un commentaire sur le jeu vidéo et d'en parler en termes très marketing de oui, c'est la même, c'est 100% en plus de l'inédit, etc. Ça paraît finalement très cynique, très très sale d'en parler de cette manière-là. Stanley Parable Ultra Deluxe, finalement, c'est les développeurs originaux de Stanley Parable qui reprennent le même postulat de départ, commenter la nature même du jeu vidéo, ce que c'est qu'être un joueur, ce que c'est qu'être un scénario, ce que c'est d'être du gameplay dans du jeu vidéo, ce que c'est d'être tout l'accompagnement derrière, visuel, sonore, etc. Et d'essayer de tordre ça, d'essayer d'en faire des vannes. C'est d'ailleurs intéressant parce que ce jeu a été développé, co-développé par Crows, qui est le studio de William Pugh, qui était l'un des deux qui avait bossé à la base sur Stanley Parable. Standalone de 2013, mais Crows, c'est aussi ceux qui ont bossé en partie avec Justin Roiland, le gars, le co-créateur de Rick and Morty, sur ces jeux complètement barrés que vous avez pu voir ces dernières années sur vos écrans, dont notamment Accounting Plus, pour ceux qui ont un casque VR, donc en gros le Rick and Morty de la VR, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt là non plus. Et donc oui, Stanley Parable Ultra Deluxe, il part un peu plus dans l'humour, il part un peu plus dans la dérision. Ça plaira à certains, pas forcément à d'autres. C'est un peu un one-man show jouable de quelques heures qui s'offre à vous. Clairement pas dans le même genre d'humour qui pète dans tous les sens, ultra grossier, que peut l'être justement Rick and Morty, que peut l'être Accounting Plus, que peut l'être je ne sais plus quel autre jeu qui était sorti plus tard et qui n'est pas exclusif vers. C'est Trover Save the World. Voilà, je l'ai en tête maintenant. Celui-là, je l'avais fait. Très très intéressant d'ailleurs, Trover Saves the World. Je conseille Stanley Parable Ultra Deluxe aux personnes qui ont fait l'original et qui l'ont kiffé, parce qu'il y a clairement matière pour elle et eux de découvrir quelque chose d'intéressant là-dedans. Je le conseille également aux gens qui, pendant 9 ans, se sont dit peut-être pas, et qui là trouvent l'occasion finalement de s'y plonger. Peut-être pas forcément d'ailleurs les gens qui avaient déjà fait le jeu a pris plein pot, vu qu'il s'agit quand même en partie de repayer pour le jeu original. Chacun voit un peu ses dépenses et midi à sa porte de ce côté-là. Mais tout de même, c'est une expérience chouette qui personnellement m'a fait rire. Je dirais pas que ça a révolutionné mon approche du jeu vidéo parce que nous, encore une fois, c'est quand même un peu plus orienté des connes. Mais il y a quand même un sens de la trouvaille, un sens de l'écriture, un sens de surprendre le joueur que j'ai pas mal apprécié. La culture de l'effort, finalement, qui est derrière Cross 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 et derrière Davy Riddon à l'écriture de ce jeu. Et ouais, moi je le recommande. Je recommande aux gens qui avaient de toute façon un intérêt pour la chose. Et puis, ça ne vous coûte rien. Allez voir les bandes-annonces, allez voir les trailers. Le jeu, il est annoncé depuis super longtemps. Les bandes-annonces du jeu original sont déjà à se taper le cul par terre. Les bandes-annonces de la suite, et en plus qui a vécu plein de reports et de plein de vraies fausses bandes-annonces de reports, faussement ouin-ouin, faussement on est désolé les gamers, sont là également excellentes. Donc Stanley Parable Ultra Deluxe, c'est également une expérience audiovisuelle gratos que vous pouvez aller consommer sur YouTube. Rien ne vous retient si ce n'est votre temps. Voilà. Est-ce que tu as une question à ce sujet, Lou?
Bah
Parce que j'ai
écoute,
pas fait.
écoute, non, je regarde la montre sur toi et je me dis si on veut tenir un petit peu l'épisode, je pense que c'est
Ah,
une
faut
bonne
parler
façon.
ça.
Oh non, pas forcément plus vite, écoute, c'est juste que on s'était donné un horaire pour pouvoir finir cette émission et je pense qu'on va le tenir pour une fois. Je sais que c'est un truc qu'on
Je
n'a
serai
jamais
laissé
fait.
en bavard après, t'inquiète pas.
On n'a jamais fait en 103 épisodes, enfin en 102 épisodes, peut-être qu'on réussira au 103, je ne sais pas. On verra bien, mais voilà, donc tu nous recommandes Stanley Parable Ultra Deluxe. Est-ce que tu recommandes davantage la version Ultra Deluxe ou la version de base, tiens, en question?
Non, non, si vous n'avez joué à aucune des deux, faites la Ultra Deluxe, le jeu original est dedans, donc vous n'allez rien perdre du tout.
D'accord. Ok, très bien. Eh bien, à mon tour de faire une recommandation, et ce jeu s'appelle Two Point Campus. Alors, vous le
Ah bah
savez,
tu
j'en ai...
l'attendais celui-là.
Ah, je l'attendais depuis tellement longtemps. Il est sorti 4 ans après Two Point Hospital, donc qui a donc été créé par des développeurs qui avaient travaillé justement à l'époque sur Theme Hospital, donc l'ancêtre, le jeu de gestion où on pouvait gérer un hôpital. Two Point Hospital ont géré un hôpital, effectivement, un jeu de gestion où on retrouvait tout l'humour du jeu original et en même temps un gameplay beaucoup plus profond, beaucoup plus de possibilités. Une meilleure cohérence d'ensemble d'ailleurs, on n'avait pas l'impression de recommencer à zéro à chaque fois parce qu'on suivait en fait notre progression en termes de recherche, on découvrait des nouvelles maladies, etc. Mais on retrouvait aussi les anciennes. Et surtout, il y a eu 7 DLC très inventifs qui apportaient vraiment des défis de qualité, des maladies rigolotes, plein d'idées en termes de gameplay, les ambulances, des niveaux par vague, enfin bref, il y a plein de choses très intéressantes dans les DLC. Et c'est fort de cette expérience qu'ils ont du coup essayé un nouveau genre de jeu, donc Two Point Campus, où on gère une université. Alors ça se
C'est rare
passe un...
les gens-là ou faire une
Mais
université.
oui, alors figure-toi qu'en faisant ma petite recherche sur Gamekult, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Campus, qui a eu 2 sur 10. Je me suis dit, c'est quoi ce jeu? Il est absolument pourri. Donc j'étais lire le test, et là j'ai vu que c'était moi qui l'avais fait.
Un sujet, c'est excellent.
Mais oui, le gars qui a fait plus de 900 tests, au bout d'un moment, il sait plus forcément tous les jeux auxquels il a joué. Et après, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, le jeu était dégueulasse graphiquement, c'était une 3D isométrique absolument immonde, enfin bref, c'était naze. Effectivement, donc les jeux d'université sont très très rares, et surtout c'est que c'est des campus à l'anglo-saxonne, donc c'est intéressant dans le sens où tu as le côté capitaliste malgré tout,
Oui.
et surtout tu as toute cette vie estudiantine qui est très très importante, puisque l'objectif principal en fait dans Two Point Campus, ça va être de gérer, on va dire, le bonheur au-delà de ça, au-delà des études, c'est vraiment le bonheur, l'épanouissement des étudiants, là où dans Two Point Hospital, tu faisais tout pour que ton hôpital soit efficace et pouvait traiter, c'était une usine à soins, quoi. Là, c'est vraiment une usine à bonheur, et mine de rien, avec ce focus qui change de ton personnel vers tes clients, entre guillemets, ça change quand même ta perception du jeu et la façon de jouer. Ce qui est incroyable, c'est la générosité du titre dès le début, avec une tonne de contenu à débloquer déjà dans le jeu de base, parce que je suis sûr et certain qu'il y aura des extensions, ça il faut pas en douter. Et c'est toutes les possibilités surtout que tu peux faire dans le jeu, dans la création, même dans la construction, puisque là tu es libre, tu n'as plus besoin de suivre le quadrillage. Ça y est, on peut s'émanciper du quadrillage. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un jeu qui est vraiment très drôle. On retrouve le principe du jeu de base, enfin du jeu original, tout ce côté humoristique avec les petites vannes de la meuf qui fait les annonces évidemment à la voix. Et c'est un rythme aussi qui va être différent, c'est-à-dire que là où Two Point Hospital va être en assez régulier en fait dans l'arrivée des nouveaux patients, etc. T'as le temps de t'y faire. Là, évidemment, c'est les années scolaires qui vont rythmer un petit peu ton gameplay. Donc tu vas avoir une phase de pause estivale où tu peux construire un petit peu des nouvelles salles, te préparer pour la nouvelle année, etc. Et puis tu as toute l'année scolaire où tu peux créer des événements, suivre un petit peu au jour le jour comment ça fonctionne, s'il faut construire des nouvelles infirmeries, etc. Et engranger évidemment du pognon. Et surtout beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de besoins en termes de salles, des améliorations de salles. Enfin, c'est, le jeu déjà de base est beaucoup plus profond que Two Point Hospital de base. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Et ça me donne envie de voir d'autres jeux de la licence Two Point, qui depuis a été racheté par Sega, hein, je vous le rappelle. Donc si vous pouvez me faire un Two Point Movies en s'inspirant de The Movie, ce serait absolument formidable. Je surkifferais. Mais il y a tellement, tellement de choses à voir. Je sais pas, un hôtel, un restaurant, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils font du DLC aussi pour Campus. Mais je pense qu'ils ont trouvé une recette de jeu de gestion qui, même si avec Campus n'est plus très original, parce que clairement, bah, c'est le même jeu, mais dans un contexte différent, hein, ça c'est sûr.
Un gros reskin en quelque sorte.
Oui, exactement, c'est exactement ça. Même si le rythme va différer, on va tout de suite retrouver une optique qui est à la fois agréable et ça manque de surprise. Donc ça mériterait peut-être de creuser aussi le lore, hein, qu'il y a derrière autour de Two Point County. Mais voilà,
donc
malgré tout,
entrer dans le temps, en fait.
Ouais, malgré tout, ça me donne envie déjà d'avoir des DLC et surtout de voir ce qu'ils feront par la suite. Même si c'est pas surprenant, ce sera kiffant et c'est après tout, c'est tout ce qu'on demande à un jeu quelque part. Donc voilà.
C'est intéressant. Juste, je voulais réagir là-dessus, peut-être avoir de la manière dont tu me l'as décrit, l'humour, la générosité dès le départ. J'ai l'impression, je vois un CD-ROM dans ma tête. J'ai l'impression que tu décris un jeu PC des années 90.
Est-ce que dans l'approche, on n'est pas proche des années 90 ? Finalement, le jeu de base, c'est Theme Hospital, et on n'est pas si loin que ça.
Un retour aux sources, déjà.
C'est vraiment, on reprend cette recette et on va la magnifier, quoi. C'est les coquillettes jambon 3 étoiles, j'ai envie de dire. Parce que c'est délicieux, tu retombes en enfance, tu retrouves une certaine nostalgie. Et en même temps, ça va tellement plus loin. Tu vois, il y a un petit peu de truffe, t'as l'impression, par moment, quand même, sur le côté en goût, quoi. Donc, vraiment, je le conseille, si vous aimez les jeux de gestion, il faut pas passer à côté d'Hospital ou de Campus, parce que c'est quand même une belle évolution dans ce qu'est c'est pas une révolution, mais c'est une belle évolution dans ce que peut être le jeu de gestion. Alors, je regarde un petit peu notre petite liste, et en parlant d'évolution, je vais pas parler de Pokémon tout de suite, mais je vais parler de Kirby et le monde oublié que nous avons fait Yann et moi, donc on va pouvoir vous en parler tous les deux, mais je vais bien sûr donner la parole avant tout à Yann. Et pourquoi je parle d'évolution ? Parce que figurez-vous que c'est le premier jeu 3D de Kirby. Eh oui, le premier jeu 3D. Alors, comment tu l'as appréhendé, ce premier jeu 3D de Kirby ?
C'est vrai, et en même temps, ça fait un an que je regarde des vidéos YouTube. On en parle tout le temps comme ça. Donc oui, effectivement, c'est le vrai Kirby en 3D. Mais c'est surtout un bon jeu. C'est surtout un bon jeu de plateforme, et je crois qu'il faut poser ça sur la table, en fait. J'ajouterais même un mot.
Poser Kirby sur la table.
C'est un bon jeu de plateforme familiale. Voilà. C'est un jeu de plateforme familiale, accessible, mignon, dans lequel Kirby va explorer un nouveau monde, un monde... Oui !
Oh là là. La Terre, quoi.
C'est dans le titre. Effectivement, Kirby peut toujours copier les pouvoirs de ses ennemis. Il peut également avaler certains objets dans le décor qui lui permettent d'avoir un pouvoir spécial. Quel est le nom français déjà de cette transformation ?
La transmorphing.
Transmorphing, ça c'est en anglais. Ils ont trouvé un titre mignon en français.
Non, mais transmorpher, Kirby peut se transmorpher.
Transmorpher. Ah oui, 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 oui. Et non, par contre, c'est en anglais, pardon, il y a un autre terme, désolé. Effectivement. Et voilà, c'est chouette, la bande-son est super. Le gameplay est aux petits oignons. Moi, quand j'ai vu les premières images de ce jeu avec cette idée d'explorer des univers, des niveaux segmentés comme ça, avec à chaque fois une petite idée de level design, une petite thématique visuelle, stylistique. Ça m'a tout de suite fait plaisir, c'est un jeu sans prétention. Ce que je trouve intéressant déjà en premier, c'est qu'il s'inspire pas mal, je trouve, de Crash Bandicoot dans l'idée, dans le système simplement où t'avances dans des niveaux qui sont plus ou moins sous la forme de couloirs, simplement des couloirs que tu vois sous angles différents et qui sont segmentés. Également, plus récemment, je trouve que il est un peu réminiscent de Sackboy A Big Adventure, dont j'avais parlé sur, dans la cartouche, ça devait être fin 2020, c'était au moment de la sortie de la PlayStation 5. Et c'était un très bon virage d'ailleurs pour la licence Little Big Planet Sackboy. Voilà, le jeu, encore une fois, est pas mal réminiscent de ça dans sa façon de faire de la plateforme. Et puis, je trouve aussi qu'il a su se réinventer en adoptant un système de mission pour avoir diverses manières de proposer aux joueurs novices, plus expérimentés, différents types de défis, que ce soit de l'année des petits objets ici et là, que ce soit terminer un boss sans s'être fait toucher une seule fois, etc. etc. Jusqu'à d'ailleurs un certain niveau de difficulté.
Ah oui. Ah, les défis courses sont relativement difficiles pour pouvoir avoir battre les records du contre-la-montre. Il faut s'accrocher.
Non, mais enfin, sérieusement, je me suis fait botter le cul par certains boss dans un jeu Kirby. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. C'est un plaisir. Où est-ce que vous étiez avant dans ma vie? Enfin,
c'est un plaisir de se faire botter le cul dans un Kirby. Alors, il y a deux choses que je voulais dire. Alors, il y a une chose que j'adore dans le jeu, c'est l'amélioration des pouvoirs. Ça aussi, c'est un concept que je trouve très intéressant, de pouvoir avoir des pouvoirs de plus en plus puissants au fur et à mesure du jeu.
Ça rappelle un peu la pouvoir de la version 64, d'ailleurs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que l'univers de cette terre oubliée, de cette terre abandonnée, qui paraît très loin un petit peu des Kirby classiques et de sa planète pop toute mignonne d'habitude, mais je trouve que c'est assez intéressant en fait d'avoir ce côté douce mélancolie. C'est pas Last of Us, hein, c'est pas l'apocalypse du monde. Malgré tout, on sait que c'est un monde détruit, mais il y a un certain charme, il y a un côté assez plaisant finalement d'explorer un centre commercial abandonné. Je sais pas, il y a une idée un petit peu romantique, je trouve, de la fin de la planète. Et l'autre point que je voulais soulever, c'est qu'on peut jouer à deux. Alors certes, oui. Le joueur 2, c'est un petit peu Tails, hein, il a un petit peu des facilités par rapport au joueur principal, mais c'est toujours bien pour pouvoir inviter quelqu'un qui est moins habitué aux jeux vidéo, de pouvoir se joindre à cette aventure très bucolique, pas forcément très difficile, même si on se fait botter le cul, comme le dit Yann, mais très agréable à partager. En tout cas, il y a un vrai côté, on se balade ensemble dans ces mondes mignons, et c'est quand même plutôt cool.
Kirby a toujours été une licence qui était quand même un peu plus coop-compatible que Mario,
oui.
En tout cas sur les modes aventure principaux. Nonobstant les Mario qui ont été pensés pour les petits joueurs genre du Super Mario Bros. Wii et suivant, Kirby, moi je pense à Amazing Mirror sur GBA qui reste une référence, même s'il est facile, et même s'il est entre guillemets court, mais Amazing Mirror, l'idée de pouvoir explorer à 4 sur des GBA linkés un monde ouvert Kirby, c'était une super idée, j'espère qu'ils la revisiteront un jour.
Très bien. Alors, après Kirby, nous allons repasser du coup à un jeu que Yann a pu faire cette année.
Ah bon, encore ?
Exactement, c'est Dicey Dungeons Reunion DLC. Donc c'est le DLC du coup de Dicey Dungeons dont tu veux a priori parler.
Je vais être très rapide là-dessus parce que j'ai déjà dit bien de Dicey Dungeons. D'ailleurs, petite précision, même si en l'occurrence, là on parle de la version Switch que j'ai acheté avec mes sous, à la toute base dans la cartouche, j'avais parlé de la version Steam de Dicey Dungeons qui m'a été offert, c'est un bien grand mot, sur lequel j'ai eu une clé éditeur. Je salue tout le monde dans cette petite opération-là, c'était encore très sympa et j'ai pu découvrir un jeu absolument fantastique que j'ai montré aujourd'hui pour rappel Dicey Dungeons. Vous, jouez un jeu de deck building, mais les cartes sont différentes selon les personnages, sont aléatoirement ajoutées évidemment à deck building au fur et à mesure de votre aventure, avec une dimension rogue dans le sens où vous recommencez depuis zéro la mission, et puis cartes ne peuvent pas être jouées telles quelles, il faut y mettre dedans des dés qui montrent des chiffres, et c'est en fonction de votre chance que vous allez décider, par exemple, de combien de points de vie vous allez vous soigner, de combien de points de vie vous allez retirer avec votre attaque à l'ennemi, de combien de points de défense vous allez ajouter temporairement à votre personnage, etc., etc. Sachant également que chaque personnage, il y en a 6, ont un gimmick de gameplay différent qui vient s'ajouter par-dessus. Et une fois que vous avez terminé une partie avec chaque, vous allez ensuite jouer à des variantes. Il y a encore d'autres variantes de gameplay qui se rajoutent dessus. Eh bien, le DLC, qui est un DLC gratuit, et qui fait suite au DLC Halloween, qui était sorti il y a quelques années, qui était lui aussi gratuit, c'est encore encore d'autres variantes par-dessus. Donc, c'est beaucoup d'amour de la part de Terry Cavano qui, pour, entre gros guillemets, fêter la sortie du jeu sur mobile, là où je le recommande également parce que Dicey Dungeons à l'écran tactile, c'est de la très bonne cam. Sur une tablette, je pense que c'est probablement la meilleure manière d'y jouer. Vous allez avoir encore d'autres missions, encore d'autres choses. C'est inventif, c'est pas trop cassé en termes de gameplay, malgré les, encore une fois, toutes les variantes, les cartes possibles, etc. etc. C'est un jeu tout bête, mais qui se réinvente de partie en partie. Je le kiffe du fond du cœur. La bande-son est toujours très chouette. Voilà, Chipzel, bravo, encore une fois. C'est bip et c'est bip qui m'entraîne jusqu'au bout de l'après-midi. Je recommande le DLC si vous avez le jeu. C'est dans la poche. Sachant que si vous avez une Switch, par exemple, le jeu est très souvent soldé à genre 5 balles. Si le principe vous intéresse, franchement, ce serait bête de passer à côté.
Alors, on va ouvrir une petite parenthèse sur Pokémon et j'en profite pour vous informer qu'évidemment, on a communiqué en amont du coup quand la cartouche a ressuscité pour vous dire qu'on ferait un épisode spécial sur Pokémon. On a bien noté vos questions, bien évidemment. Elles sont au chaud et on les restituera du coup dans l'épisode 105. On peut vous spoiler, ce sera l'épisode 105 qui sera normalement dédié à Pokémon, sauf je sais pas s'il se passe quelque chose, mais en tout cas ce sera le 105, histoire que je puisse avoir mis les mains sur Écarlate et Violet d'ici là pour mieux vous en parler, parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen d'en parler un petit peu, c'était au moment de la sortie finalement d'Écarlate et Violet. En attendant, nous allons évoquer du coup deux jeux Pokémon, et je vais commencer par vous parler de Légende Pokémon, qui est sorti en début d'année, et qui est donc le premier jeu en capture de temps réel de Pokémon. C'est vraiment un jeu d'aventure en monde quasi ouvert, on va dire en niveau ouvert plutôt. Une expérimentation de Pokémon qui est un petit peu la suite logique des Terres Sauvages qu'on a pu voir dans la 8e génération, à savoir Épée et Bouclier. Donc on voit les Pokémon vivre leur petite vie dans un monde ouvert, comme je le disais, mais qui va être très, très segmenté malgré tout par niveau. Et on peut les capturer comme ça directement. Il ne faut pas faire de bruit, il faut pouvoir faire un petit peu d'infiltration pour essayer de les choper comme ça. On est dans le passé du coup de Sinnoh, donc ça s'appelle Hisui dans cette version. Donc on redécouvre la région de la 4e génération. On découvre un petit peu ses mythes, quelques origines de story aussi, qui est assez intéressant. Et au-delà du gameplay, alors je vais voir deux points, on va dire. Je vais d'abord parler du gameplay. C'est intéressant, je trouve que c'est une bonne évolution de la licence, c'est un très bon spin-off. J'espère qu'il donnera lieu du coup à une véritable série spin-off, comme on aurait pu l'espérer avec Let's Go. Let's Go avait beau ne pas être très original, il aurait mérité d'ailleurs un Let's Go 2 dédié effectivement à la 2e génération. Là, je pense clairement, vu le succès de toute façon de Légende Pokémon, à mon avis, il y aura un nouveau Légende Pokémon, surtout que ça s'appelle Légende Pokémon Arceus. Donc il y a un sous-titre, donc je pense que c'est clairement la création finalement d'une sous-licence qui marcherait bien en alternance. En termes de gameplay, il y a quand même des améliorations à voir, parce que je trouve que le level design vraiment très décevant, à savoir c'est vraiment une carte extrêmement plate, il y a très peu de grottes à explorer, genre de choses, de recoins, enfin je pense que ce sont des choses qui sont nécessaires. Et d'ailleurs à ce niveau là Isole Armure et Couronneige, donc les zones du DLC de Épée et Bouclier, sont mieux conçus d'un point de vue de level design. C'est quand même ça. C'est quand même tragique, tu vois, quand on arrive là. Donc là, je trouve ça vraiment dommage. Et surtout, il y a le côté peu organique en fait des Pokémon qu'on a placés là vraiment comme des machins, quoi, des mobs qu'on pose comme ça. Il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut observer. Or, je pense que ça ajouterait vraiment quelque chose à ce côté un peu safari, finalement. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir quelque chose d'aussi calibré que New Pokémon Snap, qui est sur des rails. Hein. Donc, c'était un bonbon. Mais évidemment, on ne pourra pas faire quelque chose d'aussi poussé, parce qu'évidemment, du fait qu'il y ait des rails, on peut créer des patterns comme ça qui sont plus intéressants. Mais il y a quand même moyen de donner plus de vie, en fait, finalement, à ces Pokémon. Pour autant, c'est un très bon exercice. Il faut juste un petit peu retravailler la technique, puisqu'on parlait des textures de Mario Kart 8, mais les textures chez Pokémon, ça a toujours été une catastrophe depuis le passage à la 3D. Donc là, clairement, on est en HD, hein, les gens, faut s'y mettre à un moment à la HD quand même, c'est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, C'est hypnotisant d'y jouer, c'est clairement hypnotisant. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était la création des créatures. C'est un petit peu redondant comme formulation, mais vous le savez, à chaque nouvelle génération, il y a des nouvelles créatures qui arrivent, et historiquement, les nouvelles créatures apparaissaient seulement dans les jeux principaux, qui lançaient la nouvelle génération. Il y a eu des petites exceptions, déjà avec la génération précédente, enfin la 7e du coup, puisqu'on arrive à la 9e là, où avec Ultra Lune, Ultra Soleil, on a eu quelques petits Pokémon en plus qui ont agrandi le Pokédex. On a eu des nouvelles créatures dans le DLC de Pokémon Épée et Bouclier, et là on a eu des nouvelles créatures dans un spin-off. On a eu pas mal de créatures au final, il y a eu plein de formes de Hisuie, et puis il y a eu plein de créatures originales aussi, Amovenus qui venait compléter le trio des génies, et puis des nouvelles évolutions d'anciens Pokémon, une évolution de Seraphus, une évolution d'Ursaring, enfin des choses qui étaient complètement inattendues et surtout que l'on n'avait pas véritablement vu depuis la 4e génération. Alors certes, on a eu une Nymphalie, un nouvel évolué en 6e, mais depuis la 4e, on n'a pas eu de véritables nouvelles évolutions d'anciens Pokémon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument génial et je suis très heureux parce que moi, je vais être très honnête, hein, Écarlate et Violet ont entièrement leaké là, à 2-3 mois de leur sortie, même peut-être davantage d'ailleurs, donc on sait un petit peu qu'est-ce qu'on aura dans comme nouvelles créatures, dont certaines nouvelles évolutions d'anciens. Et je trouve ça très très bien qu'ils s'y soient remis parce que c'est vraiment une très très bonne manière de créer une cohérence d'ensemble plutôt qu'à chaque fois nous créer des créatures qui sont complètement décorrélées en fait des anciennes. Ce que j'aime.
Ouais, c'est cohérent quand tu as une proposition de gameplay comme Noir et Blanc par exemple, on te dit on tire la prise et on te plonge dans un univers différent, mais si on te dit à la fois c'est interconnecté, Pikachu il est là, et puis en même temps on va t'en mettre 20 000 que tu ne connais pas,
et c'est pour ça que je trouve que Légende de Pokémon est vraiment intéressant, parce qu'à la fois on a les formes régionales qui est toujours un concept que j'adore, on a même des nouvelles évolutions par embranchement, hein, c'est le cas de Hachécateur qui peut être une nouvelle évolution d'un sécateur à la place de Scizaiox, donc on a un nouveau choix comme Tarpo Tartare, jolie Flore Rafflesia, et ça c'était beaucoup trop rare et je trouve ça très intéressant d'y revenir.
Et Gardevoir et Galam,
exactement. Donc il y a plein de choses très intéressantes à voir, et pour ça, pour le Pokédex, même si si on compare à un épisode canonique, on a évidemment peu de créatures, mais pour autant ça permet d'entrevoir des générations qui seront moins fixes et avec des nouvelles créatures qui pourraient venir d'ailleurs. Et je pense qu'ils auraient dû le faire d'ailleurs dans Pokémon Snap, mettre des créatures inédites, pas forcément à capturer, mais qu'on a pu rencontrer et qu'on a pu capturer par la suite. Il faut qu'ils renforcent en fait, qu'ils éclatent un petit peu la notion de génération pour pas qu'elle repose uniquement sur le jeu, quitte à ne faire que des formes en fait. Ça permet un petit peu de gonfler les nouvelles créatures sans gonfler le numéro de Pokédex, puisque là on va dépasser les 1000 Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1000 Pokémon, enfin c'est invraisemblable.
Tout augmente, ma bonne dame.
Tout augmente. Allez, puisqu'on parlait de Hisui, on va parler de Sinnoh avec le remake de Pokémon Diamant. Et tu as joué, mon cher Yann, à Pokémon Diamant Étincelant.
Une parenthèse pour dire que j'aurais pu parler d'Arceus parce que j'ai fait les 15 premières minutes, puis ensuite je me suis rendu compte que les contrôles étaient trop compliqués vu mes soucis avec mes mains pour l'instant, donc j'ai le jeu. Voilà.
Il t'attend sagement.
Ça attendra que je puisse y jouer mieux. Parce que j'ai trop de boutons à appuyer, je pense une Pokéball, il faut genre appuyer sur deux boutons et le un pied, enfin c'est terrible. Tout ça pour dire qu'effectivement on allait faire un 2021, si je dis pas de bêtises, je pouvais pas encore jouer, et ce jeu-là, Pokémon Diamant Étincelant, enfin Scintillante si vous voulez aussi, mais en l'occurrence pour moi c'est Diamant Étincelant, restera toujours le premier jeu auquel j'aurais joué après un arrêt de jeu, dans tous les sens du terme, de 9 mois, qui a été la plus longue période dans ma vie où j'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc pour moi, ce jeu-là aura toujours une place spéciale dans mon cœur pour cette raison. Lou, est-ce que tu te souviens de l'époque où je t'avais dit que Épée et Bouclier, dans ma tête, était probablement le jeu mainline Pokémon le moins bon à mes yeux ?
Bah écoute, je pense que j'ai préféré oublier ça.
Eh bien, nous avons un gagnant !
Ah ! Bah en même temps, alors attends, juste pour bien t'énerver, donc c'était le TGS il n'y a pas très longtemps. Et il y avait eu des récompenses, évidemment, comme d'habitude. Donc, il a eu la récompense du jeu le plus vendu de l'année au Japon. Bon, ça, c'est pas...
Et des boucliers ou diamants ?
Diamants.
Diamants étincelants. Ok, ok.
Pour bien t'énerver. Bon, ça, à la rigueur, c'est un jeu Pokémon, c'est souvent le cas. C'est... Par contre, il a aussi eu la récompense du jeu japonais de l'année.
Ah, certainement, oui.
Donc, en toute honnêteté, c'est clairement abusé pour le remake le plus paresseux de l'histoire de Pokémon, quoi. Ça, c'est
non seulement le remake le plus paresseux de l'histoire de Pokémon, mais en plus l'équilibre à l'intérieur du jeu est un peu pété à cause de certains choix qui se sont forcés de faire, notamment vis-à-vis de comment ça s'appelle ce service déjà d'échange de Pokémon, Pokémon Bank, non, Pokémon Box,
le Pokémon Home.
Home. Oh là là, ils ont eu 15 noms de marque. Désolé. C'est en 9 mois d'être, en un an d'être, de plus faire de podcast jeux vidéo, tout le bullshit marketing m'est sorti des oreilles et depuis je n'ai plus aucun nom de marque. C'est génial. Je crois que c'est une forme de détox. Donc oui, pour en venir au jeu, alors déjà, il est moche. Alors en combat ça va, pas de problème. Par contre sur la map c'est terrible parce que alors qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de l'écran de la DS qui était limité en termes de résolution et qui également était pas du tout dans le même ratio qu'un écran 16/9 à justement un écran 16/9. Fun fact, la plupart des villes, des routes, bref, tous les environnements, quand tu es sur un écran 16/9, bah, en fait, tu fais face à ce que j'appellerais l'armée des clones, des arbres. Et du coup, ça casse pas mal le peu d'immersion que tu pouvais avoir, le peu de suspension d'incrédulité que tu pouvais avoir sur l'univers de Sinnoh à l'époque de Diamant, Pearl, Platine. Déjà, ça, bon, tu sens que ça n'a pas été super bien réfléchi. Plus visuellement, effectivement, le côté chibi, on voit que ça veut être une réminiscence de comment était le jeu à l'original, mais en vrai, ça fait juste copie mobile chibos. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, alors, un truc dommage, c'est justement, j'y viens à cause de Pokémon Bank. Comment vous dire ? On a dû conserver les bons types, les nouveaux types de Pokémon, les nouveaux équilibrages, plein de choses qui ont évolué depuis la quatrième génération, qui ont évolué depuis Diamant, Perle, Platine. Mais du coup, pour certaines équipes, et notamment certaines équipes de champions, ou certaines équipes de champions d'arène, de conseiller des quatre, etc., bah, ça pète un peu les choses. Parce que tout d'un coup, t'as des types fées qui apparaissent, t'as des trucs comme ça qui n'étaient pas présents dans le jeu d'origine et qui n'étaient pas des cas de faiblesse qui étaient prévus et de stratégie qui étaient prévus à la base. Et ils n'ont pas changé les équipes. C'est dommage, hein.
Ouais,
et
je suis pas trop d'accord avec ce point. Je trouve pas que ça transparaisse tant. Bah non, je trouve pas que ça transparaisse tant que ça, en fait, finalement. Effectivement, il y a le type fée qui est apparu entre temps, mais je trouve pas que ça bouleverse le gameplay à ce point.
Bouleverser, c'est peut-être un grand mot. Mais pour certains combats, notamment la championne, mais aussi d'autres, tu peux quand même un peu plus brute forcer avec le type fée.
Ouais, certes, le type fée va bien aider contre Cynthia et son Carcacroc, mais elle reste quand même redoutable, surtout dans son rematch et dans son rematch, qui là, pour le coup, sont parmi les... Enfin, ce qui est intéressant en plus, c'est que pour une fois, ils ont fait des teams compétitives avec véritablement des Pokémon entraînés, avec des bonnes natures, des bons EV et des bons objets et des bonnes techniques. Enfin, clairement, c'est la pire ligue en termes de difficulté de tout l'univers Pokémon. Ça, on peut pas le retirer.
J'ai fait peut-être 10-12 fois. J'ai dû faire 10-12 tentatives pour pouvoir y arriver. Donc, oh oui, j'en sais quelque chose. t'es quasiment underlevel, tu débarques, t'as tes Pokémon qui sont genre à la limite au niveau du plus faible des Pokémon de la ligue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était d'ailleurs le cas dans les jeux originaux. Hein. C'est vraiment une copie carbone de ce côté-là et à plein d'autres égards. Un truc qui est dommage, c'est quand même que la plupart des ajouts de platine ne sont pas présents dans la version qui est censée être définitive.
C'est encore une fois incompréhensible.
Sachant que, rappel, Diamant Perle, à la base, quand ils sont sortis sur DS, ils sont sortis rochers. Ils sont sortis à la Mégabourg pour pouvoir être là, parce que Pokémon était devenu un rouage important pour Nintendo, mais aussi simplement pour... Voilà, pour Game Freak, Pokémon Company, l'idée était de cimenter la présence du truc. La DS était sortie, vite, vite, il faut faire quelque chose. Emerald est sorti il y a un moment, elle est maintenant, ma bonne dame. Ce qui fait qu'on n'a pas, les ajouts scénaristiques, on n'a pas les rééquilibrages, notamment en ce qui concerne certaines équipes, je pense notamment au type feu, qui est vraiment manquant à Sinnoh dans Diamant et Perle, mais également le Battle Frontier. Le ouais. post-game est 5 fois moins généreux. On
ouais.
y perd.
Ouais, après, t'as quand même toute l'île du Nord à explorer. Donc, certes, t'as pas la zone de combat, enfin, la méga zone de combat, tout ça, mais bon.
Enfin, il y a l'île du Nord.
Oui, bien sûr. T'as une partie supplémentaire.
Et même, elle est améliorée dans Platine, visuellement, et même en termes de level design également. Donc,
t'as vu la villa que tu pouvais meubler. C'était rigolo.
Ouais. Voilà. Oui, effectivement. Mais d'autres choses également. Et puis, un point quand même positif, c'est le Kyonotor et les CS qui ne peuvent pas être attribués à un Pokémon. Tu peux vraiment te balader comme tu veux. Et ça, pour un jeu qui était aussi pénible que Diamant, Perle, Platine, avec les CS et avec les puzzles environnementaux, c'est une belle amélioration. Disons, avoir Pokémon, Diamant, Perle, avoir Sinnoh dans sa poche, dans sa Switch, sur le papier, c'est cool. Vendu, prix auquel c'est vendu, c'est du fichage de figure pour ne pas dire autre chose.
Bah écoute, la bonne nouvelle, c'est que ça ne pourra arriver qu'une seule fois supplémentaire avec Noir et Blanc. Mais après, quand ils devront faire le remake du coup de XY, ils seront obligés de faire un jeu 3D relativement correct. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, ils pourront plus refaire.
Parce que Noir et Blanc, j'ai encore vu un let's play intégral du jeu. Il est tellement bon.
Mais oui, avec le recul, c'est vraiment... dire que je ne l'aimais pas à sa sortie, mais vraiment, j'ai appris à l'adorer, parce qu'il est, il est absolument incroyable.
L'univers, le scénar, tout le truc, l'inventivité dès le départ. Noir et Blanc 1 est généreux, Noir et Blanc 2 est généreux sur la générosité. Vraiment, on ne mérite pas cette cinquième génération Pokémon. Et si on ne fait pas attention, on va encore en parler pendant 3 heures. Donc, dirige-nous vers un autre jeu.
Eh bien, écoute, je vais te parler d'un jeu qu'on pourrait parler aussi pendant très très longtemps. Je ne l'ai pas encore fini. J'attends sa suite avec impatience, mais c'est une bonne surprise. C'est FF7 Remake. Alors, que dire si c'était un jeu qui était attendu? FF7 est certainement l'un de mes FF préférés, ça c'est sûr. Je suis même en train de le refaire, je suis quasiment en train de le finir. Je crois même que je vais réussir à obtenir un chocobo doré pour la première fois de ma vie. Vous imaginez pas le bonheur que ça va être de choper enfin la matéria des chevaliers de la table ronde. Enfin bref. Je suis un petit peu en train de refinir le jeu original et du coup j'ai craqué pour le remake quand il est sorti enfin sur PC, sur l'Epic Game Store.
Donc c'est la version intergrade avec Yuffie,
c'est ça.
Et tralala.
Exactement, sorti à un prix absolument prohibitif de 70 balles je crois, ou peut-être même plus, enfin bref, je pouvais pas ne pas craquer et j'avais peur en même temps. J'avais peur parce que FF, c'est vrai que c'est un jeu, enfin c'est une licence qui m'a un peu perdu à partir du 12. Le 12 était pas formidable à mon sens, même si j'ai joué et tout. Le 13, j'ai appris à l'aimer vraiment sur la fin. J'ai appris vraiment à l'aimer sur la fin, parce que tout le début, les couloirs et tout. Enfin, le 13 a une histoire particulière. Hein, son développement est très très particulier. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le 13-2 et le 13-3, Lightning Returns étaient de mieux en mieux en fait à chaque fois. J'ai hâte d'ailleurs de les refaire. Et le 15, là, je stop, quoi. Le 15, c'était plus possible. Et d'ailleurs, le 16, je pense que je vais faire l'impasse parce que clairement, l'univers me parle pas et j'ai peur au niveau du gameplay. Donc, ce FF7 Remake, forcément, il me faisait peur, notamment pour les affrontements, parce qu'on oubliait, on laissait complètement de côté le fameux ATB, le tour par tour, finalement, mais en version un peu plus rythmée, mais malgré tout, le côté un petit peu ancestral du RPG que moi, j'adore. C'est pour ça que j'adore des jeux comme Bravely Default, par exemple, mais...
Et on part là.
Bon, là, on est vraiment sur un jeu d'action où on ne dirige qu'un seul personnage et principalement Cloud. Déjà que c'était déjà très centré sur Cloud, le jeu original. Là, c'est encore plus le cas. Et au final, eh bien, les combats sont très intéressants. Pas forcément simplissime ni simpliste. Il faut bien gérer son timing, mais c'est pas frustrant et ça se transforme pas en jeu d'action pour autant. C'est ça qui est intéressant. C'était vraiment ma crainte. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Et tout ce qu'ils ont ajouté en termes d'univers, sauf si c'était mon autre crainte, parce que Le problème de FF7, c'est que c'est un truc qui n'arrête pas de gonfler en fait depuis sa sortie, puisqu'on t'a rajouté un film, on t'a rajouté une préquelle, puis t'as rajouté une autre préquelle, et puis ceci, et puis cela. Enfin, c'est... oui. Et du coup, t'as des retcons dans tous les sens, hein, parce qu'il faut évidemment que tout soit cohérent, et t'as des choses qui s'ajoutent qui sont pas forcément hyper intéressantes.
FF7 est un complexe industriel à part entière.
Ah non, mais pff, c'est une cata. Mais là, ils ont réussi à respecter le scénario original, déjà, à ajouter des éléments dans le scénario original qui correspondent vraiment à l'univers et qui font pas un truc un petit peu comment dire, un petit peu arbitraire, même si clairement l'univers qu'il recrée est passablement différent de l'univers original, dans le sens où c'est assez surprenant de voir les tenues des personnages, etc. Enfin, à l'époque, on pouvait pas se les projeter, évidemment, hein, sur un sprite, enfin sur un, pas un sprite, sur une modélisation 3D très sommaire. Il y avait une distance beaucoup plus lointaine. Là tu vois les personnages en veste de jean et tout, c'est un petit peu bizarre presque par moment, tu vois, ils font presque trop classique finalement par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Mais malgré tout, ça passe très très bien, et surtout il y a une relecture de FF7 et de la licence FF qui vient s'additionner et qui vient titiller le joueur qui connaît par cœur le jeu original, et qui crée une sorte de pas de malaise, mais de sensation étrange, en fait, de déjà vu sans l'être, un petit peu à la manière, finalement, des quatre films Évangélion, où tout commence de la même manière, et puis tu te dis, tiens, c'est bizarre, c'était pas exactement comme ça dans la série, ou c'est moi qui se souviens pas. Et
du coup, ça...
Oui, c'est ça, il joue avec tes souvenirs et il t'emmène complètement ailleurs, et j'ai hâte de voir comment ils vont reboucler vers la fin, parce que la fin du quatrième film Évangélion est magistrale, et j'ai hâte de voir... Je te le dis, en tout cas. Et j'aime la façon dont ils rebouclent, et j'espère qu'ils vont faire la même chose, finalement, et ça va être très compliqué, parce que là, on va arriver dans le moment du jeu où on quitte Midgar, donc pour la suite, et on commence à explorer le monde. Comment on va l'intégrer dans un jeu qui va être beaucoup plus linéaire, en fait, finalement. On verra bien, mais j'aime cette relecture, j'aime ce qu'ils en font, j'aime la générosité qu'il y a autour, j'aime la qualité, le soin apporté aux personnages, aux voix, aux modélisations, à l'esthétique. Enfin, il y a plein de... C'est vraiment... Il y avait vraiment 100 manières de se casser la gueule sur un remake de FF7, et je trouve qu'ils ont réussi le remake de FF7. Et rien que ça, c'était inespéré. Et vraiment, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ce sera encore plus quelque chose, je pense, une fois qu'on aura pu le finir. Donc j'ai hâte de voir la suite.
C'est marrant de t'entendre parler de FF7 Remake. Je serai très bref là-dessus. Me faire réaliser quelque chose par rapport à Stanley Parable Ultra Deluxe, spécifiquement Ultra Deluxe, c'est le contenu qui est ajouté à Ultra Deluxe. En termes d'écriture, c'est une farce au sens théâtral. C'est vraiment, je pense, la meilleure façon de décrire ça sans autant gâcher ce qui s'y passe. C'est une farce, et c'est une farce qui est intéressante, qui n'a l'ambition que d'être cela, mais qui est intéressante néanmoins. Fin de parenthèse.
Il nous reste chacun un jeu, mon cher Yann. Je te propose de parler de WarioWare Get It Together avant de clore cette émission.
Bien oui, bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu WarioWare Get It Together annoncé en salve avec d'autres jeux de l'époque GBA, GameCube, puisque c'est peu avant, peu après, on a également vu justement le Mario Strikers qui était annoncé, ainsi que Advance Wars 1 et 2 qui est toujours dans le pipeline, qui est quelque part perdu dans un dans une réserve du côté Nintendo, en attendant des jours meilleurs et peut-être un peu moins de guerre en Ukraine. Toujours est-il, WarioWare, lui, est sorti Get It Together, puisque ça se joue au Joy-Con, d'ailleurs à la manette Pro, mais l'idée est quand même de partager un Joy-Con avec un ami et d'aller se pouiller à deux, plaisir des dieux, caprices de WarioWare Get It Together. Vous allez faire des mini-jeux, hein, c'est des micro-jeux même. La recette habituelle de WarioWare, c'est complètement barré comme d'habitude, c'est thématisé par personnage comme d'habitude. Le twist, cette fois-ci, souvent un twist avec les WarioWare depuis l'épisode, le deuxième épisode GBA, c'est que vous n'interagissez pas directement avec le contenu du micro-jeu, vous allez contrôler un personnage qui, lui, va agir, toucher, bouger, secouer ce qui se passe à l'écran. Chaque personnage, il y en a plein, il y en a de tête, je dirais, une bonne quinzaine, qui reviennent évidemment des différents firmware précédents, ont un gameplay différent. Par exemple, Mona, la célèbre Mona qui avait commencé dans son petit restaurant de pizza, eh bien, elle allait sur son scout italien favori et elle lance un boomerang et elle ne peut jamais s'arrêter de bouger. Wario se contrôle un petit peu comme un personnage de plateforme habituel, avec cela qu'il a son habituel de Wario Land, coup d'épaule, qui peut le projeter vers la gauche, vers la droite. Kat et Anna sautent automatiquement et peuvent lancer un shuriken l'une vers la gauche, l'autre vers la droite, et donc force à changer un petit peu votre positionnement en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. Et donc, tous les micro-jeux ont été pensés pour ce modèle d'interaction où on contrôle un personnage qui va réaliser une action derrière. Chacun des micro-jeux va être plus ou moins bien adapté au gameplay des différents personnages. Tous sont faisables, mais pas forcément avec le même niveau d'effort. Et il en ressort un jeu qui est sympa, qui est un WarioWare finalement assez classique en termes d'offrande aux joueurs. On a autour de 180-200 micro-jeux, c'est très classique pour la série. Quelques petits modes multijoueurs sur le côté, rien de révolutionnaire de ce côté-là. Un petit mode marathon en ligne avec un scoring et un leaderboard vous. Également une petite économie interne au jeu pour débloquer 2-3 petites choses sympas, mais rien de révolutionnaire. Et finalement, plus vraiment les petits gadgets tels qu'on les avait à une époque, on a un petit peu perdu cette générosité-là, ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, c'est un petit peu bizarre de voir WarioWare continuer après WarioWare Gold. Je crois que tu t'en souviens, Lou, c'était l'épisode 3DS qui agissait à la fois avec de l'inédit et avec beaucoup de compilations.
Je l'ai pas jeu fait, celui-là.
Extrêmement généreux. Aujourd'hui, si je devais recommander un WarioWare, ça resterait WarioWare Gold sur 3DS. Vous pouvez encore le récupérer, ne serait-ce que sur cartouche. Après, si vous êtes fan du genre, WarioWare Get It Together se fait tout à fait. Et si vous avez quelqu'un avec lequel le partager, alors là, c'est vraiment là qu'il prend, on va dire, sa meilleure expression. WarioWare Get It Together. Un jeu sympa sur 10. Pas plus que ça, finalement. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Peut-être un petit peu dommage après WarioWare Gold et, je veux pas dire ses sommets, mais en tout cas, son côté un peu prolixe. Voilà. On revient à quelque chose d'assez classique. Un petit jeu fini arcade qui paye pas de mine, qui est sympa, voilà, sans plus, sans moins. Étonnamment, tu vois, moi je le verrais bien à terme offert avec la version la plus chère de l'abonnement
du pass, ouais.
Switch Online. Ça irait bien avec, en termes juste de bon, voilà, c'est sympa, c'est un petit bonus. Les gens l'achètent pas forcément, il s'est pas vendu à what million. Ça n'a pas été un bid, mais ça n'a pas non plus était un succès interplanétaire, il se pose là.
Ouais, j'ai pas été convaincu par cet épisode. Alors, je vais peut-être plutôt me pencher sur Gold parce que je le connais pas, mais pour moi, pour l'instant, le meilleur WarioWare, c'est le premier sur GameCube, en fait, donc qui était magistral. Enfin, je l'ai tellement adoré.
Et celui sur GBA, d'ailleurs, mais ouais.
Mais ouais, mais du coup, je. Ouais,
t'as des vraiment... trucs solo en plus dans celui sur GBA, t'as des trucs multi en plus dans celui sur GameCube.
Et vraiment, vraiment, je l'adorais. Et je vais finir du coup par le dernier jeu dont je voulais vous parler. Ce sera assez bref parce que c'est Zelda Breath of the Wild et forcément, on vous en rebat les oreilles. Donc effectivement, Tears of the Kingdom a été officiellement annoncé. Donc ça y est, on le sait, on pourrait y jouer en mai 2023. Enfin, l'épisode, la suite de Breath of the Wild. Vous le savez, je suis un petit peu... Alors non pas que j'ai pas aimé Breath of the Wild quand je l'ai fait, mais... c'était pas ce que j'attendais d'un nouveau Zelda. Donc,
on renvoie nos auditrices et nos auditeurs à l'épisode 0 de la carte.
Ah, je savais même pas que c'était notre épisode 0 là-dessus, tu vois. Donc,
ça et la Switch, c'était en mars 2017.
Eh ben. Bah écoute, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui se souviennent ce que j'avais dit à l'époque. Mais effectivement, ce que je reprochais au jeu, c'était l'absence surtout des donjons thématiques et cette absence de progression. Et alors. De progression classique avec tu récupères des objets petit à petit et t'explores davantage.
Tu étais moins dithyrambique que moi, c'est pour sûr.
Et les armes qui cassent, ah là là. Mais maintenant que je sais, en fait, là je le refais parce qu'il y a Tears qui va sortir. Maintenant que je sais tout, que je sais ce qu'est Breath of the Wild, cette fois-ci je le refais avec un tel plaisir, en fait. Je sais que les armes cassent et je sais que j'aurais pas de scrupules à en retrouver et que c'est pas très grave si cette arme que j'adore, je la pète parce que je pourrais la retrouver d'une autre manière. Je sais qu'il n'y a pas de donjon thématique, mais du coup, je sais que je peux trouver mon plaisir ailleurs par une exploration d'une autre manière. Ce qui n'empêche pas que j'espère que les donjons thématiques reviendront d'une manière ou d'une autre dans la suite, bien évidemment. Mais du coup, je redécouvre Breath of the Wild avec beaucoup plus de plaisir cette fois-ci, en le refaisant avec ce plaisir d'exploration qui était déjà présent la première fois. Hein. C'est exploration libre, complètement libre, où tu as l'impression que tu peux vraiment tout voir, tu vois un truc et tu le vois de si loin. Ça aussi, c'est incroyable. C'est la profondeur du champ de vision où tu vois quasiment Hyrule d'un bout à l'autre par endroit. C'est presque dingue. C'est presque dingue. Et quand tu connais en plus, quand tu connais Hyrule, je dirais que c'est presque plus intéressant de le faire quand tu le connais finalement. Parce que tu te dis, ça c'est tellement loin et je le vois d'ici et je sais ce qu'il y a là-bas et il y a encore des choses que je n'ai pas encore vues d'ailleurs, tu redécouvres encore des choses, donc je le kiffe davantage cette deuxième fois et c'est ça que je trouve assez cool, de se dire ce jeu je le connais, je l'ai fini et je l'aime encore plus que la première fois que je l'ai fait, parce qu'en général tu le refais parce que t'aimes bien, mais tu redécouvres pas, tu as pas ce plaisir de la découverte et c'est forcément un peu moins bien la deuxième fois, et là c'est l'inverse. Là, je prends encore plus mon pied parce que je le connais. Donc du coup, voilà, si vous hésitez à le refaire avant la sortie de Tears of the Kingdom, bah écoutez, moi, en tout cas, ça a été une redécouverte pleine de plaisir et donc je ne peux que vous y encourager. Alors, est-ce que tu voulais peut-être réagir sur Breath of the Wild ?
Deux trucs. Déjà, le premier, c'est qu'il n'y a toujours pas moyen d'avoir un fichier de sauvegarde supplémentaire.
Ah.
Sans autre, créer un autre profil, et j'ai pas envie de péter ma save actuelle. Ah ouais, alors ça pour le coup, j'espère qu'ils corrigeront sur Tears. Tu vois. Ça, c'est probablement un des plus gros défauts du jeu, à mon avis. Et c'est dire, tu vois, si je le porte haut dans mon estime, parce que je trouve pas énormément d'autres défauts à lui attribuer. Je voulais simplement dire. Ah si, voilà ma question. Toi qui as fait le Musou.
Et le Warriors, l'ère du fléau.
Qu'est-ce que l'âge de la calamité, qu'est-ce que ça fait d'y rejouer après? Est-ce que ça ajoute quelque chose à ton à ta nouvelle partie?
Oui et non. Alors très très peu en fait. C'est juste que il y a des fois j'arrive dans des arènes, mais ça me l'a fait pareil quand je joue à l'ère du fléau en fait. Et j'arrive dans des endroits en fait du jeu où je me dis, ah tiens. Cet endroit, on le retrouve dans l'ère du fléau. Et du coup, tu te dis, tiens, il s'est passé telle chose à tel endroit. Donc, c'est vrai que par endroit, si, c'est vrai que sur les murailles des limites ou genre de choses, où tu sais qu'il y a eu des grandes batailles, si, en fait, oui. Avec le recul, je me rends compte que oui. Tu vois, je n'avais pas forcément perçu. En fait, ce que j'interprétais comme étant ma connaissance de mon premier run de Breath of the Wild vient aussi beaucoup de l'ère du fléau, parce que tu sais qu'il y a eu des grandes batailles à tel endroit, enfin c'est toutes les batailles d'ailleurs, c'est tout ça en fait, puisque le jeu est entièrement basé sur les batailles, donc tu sais qu'il y a eu telle chose à tel endroit, et du coup c'est amusant de se dire voilà, je connais un peu mieux le passé, cette guerre du fléau qu'il y a eu 100 ans auparavant, donc c'est vrai que ça ajoute quand même, et puis en voyant Impa, je me dis putain, c'est vrai qu'elle a borflé quoi avec le temps. Ce à quoi elle ressemblait. Ah bah ouais, quand même, en 100 ans, ils l'ont pas épargné hein, en termes de physionomie. Ça c'est assez incroyable. Mais du coup, c'est assez rigolo de voir effectivement l'évolution des personnages et de se dire tiens, il s'est passé ça. Et surtout les prodiges, tu les connais bien mieux aussi. Tu les apprends mieux. Donc il y a quelque chose de très très jouissif. Et je vous conseille aussi l'Art du Fléau qui a été un de mes jeux préférés sur les années précédentes. Alors, avant de vous remercier d'avoir écouté cet épisode et de se donner rendez-vous, je voulais juste que tu nous dises deux mots sur le fait que la Switch a des dossiers maintenant, quasiment.
Oui, c'est quelque chose qui s'est passé entre notre précédent épisode et celui-ci.
Ah, c'est fou ça, c'est un truc que tu attendais, que tu réclamais depuis des années aussi dans la cartouche.
Et que j'ai à moitié eu, c'est un peu le genre de vœu maudit où tu sais, le génie essaie de trouver des parades à ton vœu. Eh bien oui, tu as des dossiers, mais tu ne peux pas les avoir sur l'écran d'accueil. Il faut aller dans la liste des jeux qui apparaissent, si on a plus de 12 jeux, tout au bout, il faut appuyer sur la petite icône avec 4 carrés, et on est emmené sur une liste, voilà, on peut la trier de diverses manières, et sur celle-ci, on peut appuyer, je crois, sur Y pour faire apparaître, là, pour le coup, une liste de... C'est pas vraiment de dossier, en fait, c'est plus une sorte de liste de lecture dans laquelle on ajoute des jeux. On peut ajouter 200 jeux par liste de lecture et on peut ajouter même jeu à plusieurs listes de lecture. Donc, c'est bien si on veut faire des listes thématiques avec les jeux préférés de maman, les jeux préférés de papa. On peut faire ça avec. Et c'est en soi, c'est cool. Quand on a beaucoup de jeux sur sa Switch, j'ai beaucoup de jeux sur ma Switch et sur son compte eShop, c'est chouette de pouvoir faire ça. Je préférerais avoir des dossiers, n'entends pas, mais je prends ce qu'on me donne, déjà.
Voilà. C'est déjà pas mal, effectivement. Depuis le temps que tu l'as réclamé en même temps, voilà.
C'est clair.
Eh bien, merci à toutes, merci à tous de nous avoir accompagnés pour cet épisode. Et j'en profite pour remercier également Greg, préventivement, qui s'occupe du coup du montage de cet épisode.
Yes.
Merci beaucoup, mon cher Greg. On va se retrouver eh bien, le mois prochain pour un prochain épisode. La Cartouche, c'est un podcast. Hein. Vous pouvez vous abonner à tous nos épisodes en cherchant La Cartouche dans votre application préférée, en espérant que ce ne soit pas à Spotify.
Oui.
Il y a par exemple Overcast.
Permets-moi de faire une parenthèse, pardon. Il paraît que les ingénieurs de Cybel nous écoutent.
Oui, bonjour, au revoir, merci.
Voilà, bah, donc, comme je l'ai dit à, voilà. À l'un de vos chefs de service sur le projet blockchain de Cybel, je vous souhaite de trouver un autre taf parce que... Oh là là. Et puis j'ai une autre chose à vous dire, c'est pourquoi est-ce que vous auriez, si vous existez vraiment et si vous avez vraiment fait ça, ce que je remets quand même un petit peu en cause jusqu'à ce qu'on présente vraiment la preuve de ça, mais tu vois, mettons, disons-nous ça, pourquoi utiliser notre flux podcast pour faire des tests sur de la prod, sachant ce qui peut arriver, c'est-à-dire en l'occurrence, on a reçu un email qui dit bonjour, votre podcast est un NFT, ce qu'on n'a absolument pas demandé.
Mon Dieu.
Pourquoi faire ça sur notre flux podcast alors que vous avez genre des partenaires, genre Binge, chez qui vous auriez tout à fait pu le faire, sachant que eux ont tout à fait signé pour ça. Donc je très très perplexe, très étonné. Voilà, faites gaffe, juste. Oui. C'est sympa quand même, hein. Voilà.
Écoutez-nous, ne nous touchez plus. En revanche, merci beaucoup. On vous conseille, chers auditeurs, chères auditrices.
Écoutez-nous, ne touchez pas.
Vous pouvez utiliser d'autres applications comme par exemple Overcast et Pocket Cast sur iPhone ou Podcast Addict et Google Podcast sur Android. Yeah. À très bientôt pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore de quoi on parlera dans le 104, on vous le dit très honnêtement. En revanche, dans le 105, ce sera Pokémon. Merci beaucoup, bien évidemment, Yann, de m'avoir accompagné. On te retrouve sur Twitter @InxHD. Pour ma part, c'est Alex le serveur. À très bientôt dans La Cartouche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.